chers auditeurs de l'Université Interage, je suis très honoré en fait d'avoir été invité pour donner cette conférence inaugurale sur le thème de l'alimentation. Et j'ai choisi un angle particulier. Alors d'abord, je dois vous m'excuser pour deux choses. La première, c'est que je ne suis pas médecin. Donc si vous êtes venu pour une consultation, malheureusement, vous perdez peut-être votre temps. Je ne suis même pas nutritionniste, donc mes conseils ne valent pas mieux que la plupart d'entre vous. Je suis biologiste, donc je vais essayer de vous donner mon angle de vue comme biologiste, mais aussi comme simple citoyen qui observe ce qui se passe et qui essaie, disons, de se faire une idée de qu'est-ce qui se passe, pourquoi on en arrive dans cette situation et qu'est-ce qu'on a comme option ou possibilité pour essayer d'améliorer la situation. Donc, il me paraissait important, en tout cas, de vous mentionner ceci. L'autre point, disons, important, ça peut sembler très étrange que pour une conférence inaugurale sur l'alimentation, puisque en France, nous avons élevé la gastronomie au rang d'un art, que l'on commence par les problèmes de l'alimentation. Mais je pense que c'est important qu'on se rende compte, bien qu'on ait culturellement cette idée que l'alimentation est quelque chose de bien, qu'on se rende compte des méfaits de ce que j'appellerais des détournements de l'alimentation normale. Et donc, il faut être conscient de ça. Donc, je vais commencer par un propos plutôt alarmiste, mais j'espère petit à petit vous amener vers l'idée qu'il y a des moyens d'agir et de sortir de cette logique qui a conduit à la situation actuelle. Si vous avez des questions en cours de route, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Je réponds volontiers à des questions, je répondrai à des questions après, mais aussi pendant, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à m'arrêter. C'est toujours le défaut des professeurs, ils ont toujours tendance à parler, et finalement ne pas répondre aux questions essentielles, et je suis sûr que vous en aurez. Alors j'aimerais commencer par une notion technique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'IMC, ou indice de masse corporelle ? Bien, tout le monde sait comment on calcule son indice de masse corporelle. Masse divisée par sa taille en mètres au carré. Bien, alors, vous pouvez tous faire le calcul, et vous avez ici l'échelle proposée avec les différentes catégories. Attention, avant de paniquer parce que vous considérez que vous êtes dans une catégorie à risque, il faut bien se rendre compte que cet indice n'a pas été développé au départ pour être appliqué à titre individuel. L'idée est de pouvoir faire des catégories en épidémiologie pour pouvoir suivre des populations. Et cet indice est imparfait, parce qu'il ne tient pas toujours compte d'un certain nombre de facteurs, notamment le ratio masse maigre, masse musculaire, et masse grasse. Et donc, vous vous retrouvez quelquefois avec des individus avec une masse musculaire très importante, vous pouvez prendre certains rugbymen, qui vont se retrouver avec des indices de masse corporelle où on pourrait déjà considérer qu'ils sont à l'état d'obésité. Alors, il y a des biais. Donc, attention, l'indice de masse corporelle est à utiliser avec précaution, surtout pour des études de population. Donc, pas de panique, tout le monde est à peu près normal. Bien, ceci dit, c'est un index très utile, comme je le disais, en épidémiologie, pour évaluer une population dans son ensemble, voir sa distribution, et ensuite voir l'évolution de cette population. Et c'est là où les messages négatifs commencent à arriver. Lorsque les gens ont commencé à regarder l'indice de masse corporelle dans une population mondiale, on se rend compte que dans plusieurs régions du monde, et en particulier dans le monde industrialisé, les statistiques ici datent de 2022, on a des taux d'obésité qui sont alarmants. Alors, évidemment, le premier exemple qui nous vient à l'esprit, c'est les États-Unis. Mais on a d'autres régions du monde qui suivent pas loin derrière. Si on prend par exemple le Moyen-Orient, avec l'Égypte et l'Arabie Saoudite, on est à des niveaux où on est au-dessus des 30 à 35%. Donc la situation mondiale est déjà très alarmante. Si on va un petit peu plus dans le détail, il y a même des régions où là, c'est plus qu'inquiétant. Si on prend par exemple les îles du Pacifique, vous avez ici les taux d'obésité. On dépasse les 50% de la population. Donc, ça devient très préoccupant. Alors, on va aller un petit peu plus dans le détail. Alors, j'ai pris une autre statistique ici. En violet, tout en bas, vous avez l'obésité par pays, avec les années. Mais l'autre colonne, c'est le surpoids. Autrement dit, c'est un peu que l'obésité, c'est la pointe de l'iceberg qu'on voit émerger. Mais dessous, vous avez aussi une augmentation du surpoids. Donc les premières phases qui pourraient éventuellement évoluer vers l'obésité. Et donc, dans certains pays, vous vous retrouvez avec des taux, quand on combine surpoids et obésité, vous avez plus de 50% de la population. C'est absolument inquiétant. Alors, si on remet ça sur une carte à l'échelle mondiale, vous prenez la population adulte. Ici, combiné, vous avez surpoids et obésité. Dans certains pays, toujours les États-Unis, mais aussi le Moyen-Orient, vous frôlez les 70% de surpoids en 2022. Alors, on peut se dire, bon, d'accord, mais ceci concerne peut-être certaines catégories d'individus. Alors, on peut séparer, si on prend les hommes, voici la distribution de l'obésité, avec des taux qui sont aussi dans les régions industrialisées, qui avoisinent les 30 à 40%. Donc, un reflet de ce qu'on voit au niveau de la population globale. La question est, mesdames, est-ce que vos hormones vous protègent ? Eh bien, malheureusement, non. Alors, on a des différences d'un pays à l'autre, où quelquefois l'obésité est plus importante chez l'homme que chez la femme, mais dans d'autres, c'est l'inverse. Donc, de manière globale, on a une augmentation de l'obésité, aussi bien chez les hommes adultes que chez les femmes adultes, dans les mêmes pays. Donc c'est un phénomène mondial qui affecte à la fois les hommes et les femmes. Ça, c'est pour l'obésité. Si on regarde le surpoids, même topo. Si on regarde les hommes, on a la même distribution, avec un taux important de surpoids, et chez la femme, à peu près la même chose. Donc, c'est vraiment un phénomène global qui affecte aussi bien les hommes que les femmes. Ça, c'est déjà inquiétant. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est quand on regarde les enfants et les adolescents. Entre 5 et 19 ans, ici, c'est le surpoids, et on voit déjà, dans les mêmes régions, la même tendance qui suit. Autrement dit, on est en train de fabriquer une nouvelle génération d'individus obèses. C'est encore plus inquiétant. Et si on va chez les enfants de moins de 5 ans, il y a certaines régions qui se distinguent, l'Australie par exemple, où là, on a des taux d'obésité chez les jeunes enfants où on approche les 30%. Donc, on a des phénomènes, c'est une véritable pandémie qui se développe dans toutes les catégories d'âge. Ça, c'est déjà inquiétant. C'est un phénomène qui s'est accéléré ces 30 dernières années. Et ça, ce sont les prédictions pour 2035. Ça ne va pas s'arrêter tout seul. Donc, ceci nous invite à réfléchir et à essayer de comprendre d'où provient cette épidémie et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de l'enrayer. Donc, ce que j'ai voulu faire dans cette première partie, évidemment, c'est de vous faire prendre conscience du phénomène, que l'on fait face à une nouvelle pandémie silencieuse qu'on commence à voir, mais qui n'a pas les mêmes répercussions qu'une épidémie comme la Covid, mais qui se développe petit à petit dans la population et qui risque d'entraîner des problèmes de santé publique. On est sur une bombe à retardement. Donc, c'est de prendre conscience de ce phénomène. Je n'ai pas voulu vous faire peur, mais j'espère au moins que vous en êtes conscient maintenant. Alors, effectivement, tout ceci aura des conséquences et a déjà des conséquences médicales. Alors, les premières auxquelles on pense, ce sont les maladies cardiovasculaires. Donc, avec l'augmentation de l'obésité et du surpoids, on a une augmentation des maladies cardiovasculaires. On a une augmentation du diabète, avec toutes ses conséquences. On a des augmentations des maladies hépatiques. On a mentionné la maladie du foie gras. Donc, on sait qu'avec l'obésité, on a une augmentation de ce qu'on appelle la stéatose hépatique. On va le voir un peu plus tard, qui peut dégénérer. Donc, là aussi, le problème de la stéatose hépatique, c'est une maladie totalement bénigne et silencieuse au départ. Et une fois que les premiers symptômes apparaissent, c'est déjà trop tard. Donc, il faut être bien conscient qu'avec le surpoids et l'obésité, on a souvent ce genre de conséquences qui apparaissent. Et puis, plus récemment, on a commencé à avoir des troubles neurologiques qui apparaissent. On a des augmentations de l'anxiété et de la dépression chez les individus qui souffrent d'obésité. Et on a des difficultés d'apprentissage et des pertes de mémoire qui apparaissent. Évidemment, pas au départ, mais avec le temps, on a ce genre de problèmes qui apparaissent. Donc, ce n'est pas qu'une maladie du système cardiovasculaire ou du foie ou du pancréas, mais ça devient une problématique générale qui intéresse même la sphère neurologique. Et tout ça, bien évidemment, a un énorme coût pour la santé publique. Donc, on a tout intérêt à commencer à s'y intéresser. Alors, en plus des complications médicales, on a aussi une augmentation du nombre de décès associés à l'obésité. Et ce à quoi je voulais vous rendre attentif, c'est l'évolution. Donc ici, on a les catégories plus de 70 ans, 50 à 69 ans, où on voit bien que depuis les années 90, qui est à peu près le moment où on a vu le taux de surpoids et d'obésité commencer à augmenter de manière très importante, on a évidemment les taux de mortalité qui suivent ces augmentations. Donc, on voit bien que ceci a des conséquences très importantes sur le système de santé, mais même sur la survie des individus. La question que tout le monde pose, c'est quelle est la cause ? Parce qu'évidemment, si on veut essayer d'enrayer ce phénomène, on se pose la question, il faut comprendre d'où ça vient pour pouvoir proposer des solutions.
C'est parce que c'est pour savoir si on peut éteindre des lumières, parce que
oui. Effectivement, si ce n'est pas très lisible, visible. Ah. Par contre, personne ne s'endort. Hein. Je vous surveille. Bien. Alors, la question que tout le monde se pose est de savoir quelle est la cause. Et l'une des possibilités, c'est la génétique. Alors, est-ce la faute à un gène ? est-ce la faute à une mutation qui serait apparue et qui se répandrait dans la population et qui serait la cause de cette épidémie. Alors, depuis les années 2000, on a la possibilité de séquencer le génome humain dans son entièreté. Et avec ceci, la promesse de pouvoir identifier les mutations qui seraient responsables d'un grand nombre de pathologies, de maladies, et l'obésité, à un moment, en a fait partie. On s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement identifier quelles sont les mutations ou les gènes qui sont responsables de cette explosion de l'obésité. En parallèle de cette possibilité, une découverte a été faite au milieu des années 90 qui s'appelle la leptine. Est-ce que tout le monde connaît la leptine ? Alors, très simplement, la leptine, c'est une hormone qui est sécrétée par le tissu adipeux, le gras. Plus vous avez un volume de tissu adipeux important, plus vous sécrétez de leptine. Ce qui est une bonne chose, parce que c'est un mécanisme, en anglais on dit feedback, qui permet d'informer le cerveau de la situation de vos stocks en graisse. Alors comment ça fonctionne ? Il y a un gène, qu'on appelle le gène OB chez l'animal, qui est responsable de produire cette hormone, la leptine, qui est un petit peptide. Cette hormone va être libérée dans la circulation et va aller agir à différents niveaux, mais en particulier au niveau du cerveau. Et va informer le cerveau de la quantité de tissu adipeux qu'on trouve en périphérie. Et elle peut le faire à travers des récepteurs spécifiques. Lorsque dans la population, il y a une mutation de ce gène, c'est le gène OB, la souris qui porte ce gène devient obèse, d'où l'appellation OB. Donc si vous avez cette mutation et que vous l'avez en deux copies, puisque chaque gène, on a deux copies, deux allèles, si vous êtes homozygote pour cette mutation, vous devenez obèse. Expérience vérifiée chez la souris. Si par contre vous avez une mutation sur le gène DB, qui code lui pour le récepteur à la leptine, au niveau cérébral, même phénomène, si vous avez les deux gènes, les deux allèles du même gène qui sont mutés, vous développez l'obésité. Super, on a trouvé la solution. Petit problème. Évidemment, on s'est précipité dans la population pour identifier ces mutations. On a effectivement trouvé des mutations homologues chez l'homme, aussi bien pour la leptine que pour son récepteur. Cependant, les cas de ces mutations sont extrêmement rares. Et c'est souvent des cas d'obésité juvénile qui se développent très rapidement et qui n'expliquent en rien l'explosion de cas d'obésité que l'on trouve actuellement. Mais bon, on a déjà identifié des éléments qui contribuent au développement de l'obésité et dans certains cas, pour certains individus, c'est effectivement des mutations sur ces gènes. Là, on ne s'est pas arrêté là, on a continué. Et on a commencé à identifier une foule de mutations sur un certain nombre de gènes. Exemple, ce qu'on appelle POMC, PCSK1, ils portent tous des noms un peu bizarres. Mais on a trouvé des individus avec des mutations sur ces gènes qui expliquent le développement de leur obésité. Mais à chaque fois, on est sur des tout petits nombres. Et donc, de toute façon, ce n'est pas possible que ça puisse expliquer ce qui se passe. Mais on avance sur la compréhension de comment est géré, comment est régulé ce qu'on appelle l'homéostasie énergétique, la balance énergétique ou le poids corporel. Et en fait, Ceci nous a permis d'identifier une région bien particulière du cerveau, qu'on appelle l'hypothalamus. Et dans l'hypothalamus, on a un système qui permet de réguler la sensation de satiété et de faim. Et on a un système ici de double contrôle. Donc on a deux voies, la voie qu'on appelle POMC, pro-opio-mélanocortine, et la voie NPY, neuropeptide Y. Les neurones NPY sont les neurones de la faim. Donc quand on les stimule, quand ils sont stimulés, ils stimulent la sensation de faim, donc provoquent la prise alimentaire. Inversement, quand vous avez les neurones POMC qui sont actifs, c'est le sentiment de satiété et on réduit la prise alimentaire. Et donc, il y a un équilibre entre ces deux systèmes. Et comme par hasard, la leptine vient agir sur ces deux types de neurones. Dans un cas, elle inhibe les neurones de la faim et dans l'autre cas, elle stimule les neurones de la satiété. Donc, le système est bien fait. Plus vous avez de stock, plus vous avez de leptine. Et plus la leptine vient dire au niveau du système nerveux central, maintenant, il faut arrêter de manger. C'est la satiété qui domine et on réduit la sensation de faim. Mais toutes ces mutations qui ont été identifiées, en fait, se retrouvent toutes dans l'une ou l'autre des voies qui régulent cette prise alimentaire. Donc, on se rend bien compte que ce système est très important et qu'à chaque fois qu'on a une mutation dans ce système, on dérègle le système et ça induit une obésité. Mais encore une fois, dans la population humaine, parce que tout ceci a été vérifié chez l'animal, mais dans la population humaine, très peu de mutations existent et en tout cas ne peuvent pas expliquer ce qui se passe depuis une trentaine d'années. Mais bon, on progresse en tout cas sur la compréhension de ce qui régule notamment la prise alimentaire. Alors, comment peut-on en arriver avec la conclusion que ça ne peut pas être les gènes ou un gène qui est responsable de ce qui se passe actuellement? Alors, il y a une comparaison très simple. Dans la population humaine, pour avoir de nouvelles mutations qui apparaissent, il faut à peu près 1800 générations. Or, les taux d'obésité ont triplé en seulement 3 générations. Donc, très simple, c'est impossible qu'un gène soit apparu, qu'une mutation soit apparue dans un gène qui puisse expliquer ce qui se passe. Ce qui ne veut pas dire que la génétique ne joue pas un rôle. Dans le cas de mutations simples, ou en tout cas de gènes modifiés, on en a vu, il y a quelques exemples, qui peut, notamment pour la leptine, pour le récepteur à leptine, mais qui explique un nombre de cas très limité. Mais en tout cas, ce n'est pas ce mécanisme-là qui est responsable de la majorité de ce qu'on observe aujourd'hui. Alors, c'est ce que j'ai essayé de résumer dans le tableau un peu compliqué qui est là. N'essayez pas de le lire. La simple chose que j'ai voulu illustrer, ici, vous avez justement les mutations apparues de manière spontanée, qu'on a identifiées notamment chez des colonies de souris, qui explique que quand on fait une mutation d'un gène, effectivement, on peut avoir une obésité qui se développe et que ces gènes expriment souvent des membres de ce qui régule la prise alimentaire. On peut en induire d'autres. Alors, chez la souris, évidemment, c'est un genre d'expérience qu'on peut faire. On peut modifier des gènes, et c'est ce qu'on a fait pour un ensemble d'éléments impliqués dans toutes ces voies qui régulent la prise alimentaire. Et à chaque fois, on a montré qu'on pouvait induire une obésité en mutant l'un ou l'autre de ces gènes importants. Il fallait chercher d'autres possibilités. Qu'est-ce qui pourrait donc expliquer, si ce n'est pas une simple mutation d'un gène ou d'un autre, ce qui se passe? Avons-nous des gènes qui nous prédisposent à l'obésité? Donc on change la question. Non, ce n'est plus directement un gène qui serait muté, qui cause, mais avons-nous des gènes qui, dans un contexte particulier, pourraient favoriser le développement de l'obésité? Alors, il y a des gens qui ont commencé à trouver des gènes qui, lorsque on les combine, effectivement prédisposent au développement de l'obésité. Donc on en a un certain nombre. On sait qu'ils peuvent jouer un rôle, mais pour l'instant, le mécanisme n'est pas encore très clair. On a voulu aussi savoir, est-ce que l'alimentation pourrait en être un de ces facteurs qui, combinés à des gènes de prédisposition, pourraient permettre d'expliquer une apparition soudaine de l'obésité. Et donc, on a commencé à développer des modèles où on induit l'obésité chez la souris en soumettant ces animaux à des diètes qu'on appelle obésogènes, donc qui favorisent le développement de l'obésité. Et effectivement, on s'est rendu compte que certaines souches de souris étaient plus sensibles que d'autres. Et on arrive effectivement à induire l'obésité avec la bonne diète et avec le bon background génétique, on arrive à développer de l'obésité. Donc ceci nous donne l'idée qu'effectivement, il pourrait y avoir des gènes qui nous rendent plus sensibles, qui nous prédisposent à un développement de l'obésité. Alors, c'est là où j'entre en scène. Il y a quelques années, j'ai fait une découverte, évidemment totalement par hasard, puisque c'est souvent comme ça en recherche, on pose une question et soudainement, on se rend compte d'un phénomène qu'on n'avait pas prévu. Et dans mon cas, je suis tombé sur un gène. Il faut le lancer. Je suis tombé sur un gène qui semble avoir un rôle dans l'obésité, puisque lorsqu'on le mute, lorsqu'on le modifie, on protège du développement de l'obésité. Alors, ceci m'a valu un certain succès médiatique. Bon, quelquefois, on a confondu. Quelquefois, je suis trifluvien. Quelquefois, je suis lausannois. Bon. Mais, grosso modo, on me prédit que j'ai découvert la clé de l'obésité. On se calme. Ce n'est pas tout à fait ça. Et je vais vous expliquer ce qu'on a vu. Mais j'aimerais vous sensibiliser au genre de questions que les journalistes peuvent vous poser dans cette situation. Lorsque j'ai expliqué effectivement que le gène que j'avais identifié, je vais vous expliquer dans un instant de quoi il s'agit, pourrait permettre de nous protéger, enfin, permettrait de protéger contre l'obésité. Le journaliste m'a rétorqué, c'est génial, maintenant, on prend la malbouffe pour tout le monde et on n'a plus à se priver. Non, absolument non. Ce n'est absolument pas ce que je favorise comme futur développement. Je reviens à l'aspect scientifique. Le gène qui m'a intéressé s'appelle MCT1, ce qui veut dire simplement transporteur au monocarboxylate. Terme un peu barbare. L'idée, c'est que ça permet de transporter de petites molécules, des nutriments en particulier, de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule et inversement. Donc ça permet d'échanger des nutriments. Donc les cellules peuvent absorber certains petits nutriments grâce à cette protéine. Et à se les échanger entre elles. Donc, au début, quand on s'intéresse à ce genre de protéines, si on veut comprendre son rôle, une approche très classique en biologie cellulaire et moléculaire, c'est d'invalider le gène qui code pour cette protéine. Et maintenant, on a développé des outils très puissants en biologie qui permettent de générer, par exemple, des souris dans lesquelles on va aller invalider de manière précise ce gène. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait au début. Donc, j'ai chargé un de mes post-doctorants. J'ai dit, ben voilà, le gène MCT1, je voudrais que tu me l'invalides chez la souris. Et on va voir le phénotype qui va apparaître. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, dans le cadre de l'obésité, toutes les invalidations de gènes, qu'elles soient spontanées ou induites, conduisent à l'obésité. Ici, sans a priori, on a invalidé ce gène et, comme vous le savez, on a toujours deux copies du gène, deux allèles, ce qu'on appelle un homozygote si elles sont identiques, hétérozygote si un a été invalidé, l'autre pas. On a donc invalidé les deux allèles, on a fait des homozygotes et là, énorme, énorme déception pour mon post-doctorat, puisque la souris n'est pas viable. Donc, elle n'arrive pas à se développer. L'embryon décède très, très tôt pendant le développement. Donc, oui, d'accord, le gène MCT1 est essentiel pour le développement, on est content, mais rien à faire, on ne peut rien faire de plus. Donc, on s'est intéressé à ce qu'on appelle les hétérozygotes, donc celles qui ont un gène normal et un gène invalidé. Ce qui, normalement, a comme effet de réduire l'expression de la protéine cible. Donc, plutôt que d'avoir 100% d'expression, on a des niveaux qui peuvent aller jusqu'à 50%. On réduit son expression. Et là, voici ce qu'on observe. Alors là, ça va être intéressant. On va jouer au jeu des 10 erreurs. Vous... Oh, pardon. J'en ai sauté une. Ouais. Donc, vous avez les souris mâles à votre gauche, les souris femelles à votre droite, et toujours à gauche, la souris qu'on dit sauvage, donc qui a les deux allèles normaux, et à droite, celle qui possède un allèle normal et un allèle invalidé. Et donc la question, pouvez-vous me dire la différence entre les deux individus, celui de gauche et celui de droite à chaque fois ? Alors, on va commencer par les choses de base. Elles ont deux oreilles, quatre pattes, une queue, du poil. A priori, rien qui ne semble distinguer ces animaux. On les a regardés, on les a observés, on a regardé leur comportement. Tout semblait à peu près normal. Donc, vous n'imaginez pas la déception de l'étudiant qui a passé 5 ans à les produire et 3 ans à les étudier et qui se dit « il n'y a aucune différence ». Alors, on a regardé leur prise de poids, donc on les a nourris avec la nourriture standard qu'on donne aux animaux de laboratoire, qui est une nourriture comparable à ce que nous on a, donc une nourriture basée plutôt sur les hydrates de carbone. Et quand on voit le développement et la prise de poids, c'est relativement comparable. Ils sont légèrement plus légères, c'est le cas de le dire, mais grosso modo, leur développement est à peu près identique. Jusqu'au jour où l'une de mes étudiantes, c'est bien d'avoir des gens comme ça qui font des choses qu'on ne leur a pas permis, a décidé de leur donner une diète obésogène, donc une diète riche en gras et en sucre. Alors que là, on avait une diète standard. L'attendu, c'est que les animaux prennent du poids et deviennent obèses. Et voici ce que mon étudiante m'a rapporté comme image. Au bout de 9 mois de régime, les animaux ici à gauche ont effectivement pris beaucoup de poids. Mais le plus étonnant sont les deux animaux hétérozygotes pour MCT1 qui en ont nettement moins pris. Alors, on a évidemment mesuré tout ça. Donc, on a les courbes. Donc, ça, c'était nos animaux nourris avec la diète standard. Ça, ce sont les animaux nourris avec la diète obésogène. Alors, on voit bien chez les animaux sauvages l'augmentation, la prise de poids quand ils sont exposés à cette diète. Par contre, ce n'est pas le cas de celles qui sont hétérozygotes. Donc, il semble que nous ayons mis le doigt sur un gène qui, en fait, prédispose à l'obésité lorsque les animaux sont face à une diète qui, elle, entraîne l'accumulation de graisse. Et si on mute, si on invalide partiellement ce gène, hop, on est protégé. D'où la question du journaliste. C'est plus compliqué que ça. Évidemment, ici, on a invalidé ce gène au tout début de la conception. Et c'est une invalidation globale. C'est quelque chose que chez l'individu adulte, on ne peut pas faire. On arrive à le faire sur des tissus précis. On a maintenant des outils moléculaires qui nous permettent de faire des invalidations de gènes, mais jamais à cette échelle. Donc, impensable de le faire sur un individu entier, adulte. Et ensuite, il ne faut pas oublier que ce transporteur n'a pas qu'une fonction de gestion des stocks de nutriments. Il est impliqué dans plein d'autres fonctions. Donc, un peu risqué d'aller moduler l'expression d'un gène dont vous ne maîtrisez pas tous les aspects. Donc, c'est une mauvaise, fausse bonne idée, comme disent les jeunes. Donc, évidemment, ce n'est pas la voie. Par contre, ce que ça nous apprend à propos de la gestion de l'homéostasie énergétique est très intéressant. Parce qu'il faut savoir que pour être capable de maintenir son poids corporel, on a ce qu'on appelle la balance énergétique. Il faut s'assurer que les apports soient équilibrés avec les dépenses. Et donc, évidemment, on s'est posé la question, chez ces animaux qu'on expose à une diète beaucoup plus riche, comment ces animaux font pour ne pas prendre de poids comme des individus sauvages? Et on a commencé à regarder la prise alimentaire, l'absorption intestinale pour la partie dépense, pour la partie apport, et le métabolisme de base et le niveau d'activité physique pour les dépenses. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? On a vu une différence au niveau de la prise alimentaire. On s'est rendu compte que ces animaux partiellement invalidés pour MCT1 avaient la capacité de reconnaître, ou en tout cas de se rendre compte que la diète qu'on leur donne est plus riche et d'adapter leur prise alimentaire en fonction de la quantité de calories absorbées. Donc, ils avaient une meilleure capacité à gérer l'apport nutritionnel, ce que les animaux sauvages n'arrivaient pas à faire, continuer à manger cette diète riche comme si c'était une diète normale. On a vu aussi des effets au niveau de l'absorption intestinale. Donc, on avait une réduction par rapport à tout ce qui passe au niveau du tractus digestif. Ce qui est absorbé, une partie était réduite. Donc, moins de calories étaient absorbées par rapport à la quantité de nourriture absorbée, moins entraient dans l'organisme et plus étaient rejetées. On a vu aussi un métabolisme basal augmenté. Donc, ces animaux brûlaient sous forme de chaleur plus d'énergie. Donc, une augmentation du métabolisme basal, mais par contre, pas d'augmentation de l'activité locomotrice. Donc, ce n'est pas parce qu'elles bougeaient plus, qu'elles dépensaient plus d'énergie sous cette forme, qu'elles prenaient moins de poids. Donc, l'effet était plutôt sur le côté apport, alimentation, un peu sur le métabolisme basal, sur les dépenses, mais pas du tout du côté activité physique. Alors, ce qu'on en a conclu, c'est que le gène MCT1 semble faire partie d'un mécanisme pour permettre le stockage de réserves énergétiques en période d'abondance alimentaire. Comment est-ce possible? Autrement dit, nous possédons tous au moins un gène, mais en fait, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, qui nous prédispose à stocker sous forme de graisse ce qu'on ingurgite. Vous allez me dire, mais ça, du point de vue évolution, ça paraît aberrant. Pourquoi aurions-nous gardé un gène qui nous prédispose à l'obésité? En fait, la question, il faut la prendre dans l'autre sens. C'est-à-dire, dans l'évolution, était-ce un avantage d'avoir un gène qui permette, dans certaines situations, de stocker un maximum d'énergie? Il faut bien se rendre compte qu'à une certaine époque où nous étions chasseurs-cueilleurs, l'accès à la nourriture n'était pas systématique. On a dû faire face probablement à des grandes disettes, et donc tout ce qui permettait, lorsqu'on avait un accès, disons, ponctuel à la nourriture, de stocker un maximum. de manière à pouvoir tenir le coup jusqu'à la prochaine séance d'alimentation. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Eh bien, l'accès à la nourriture, maintenant, est devenu systématique. Et en plus, nous avons accès à une alimentation extrêmement riche que nous pouvons en plus facilement assimiler. Avec la cuisson, on libère plus facilement les constituants des aliments que l'on absorbe d'autant plus facilement. Donc ce qui était probablement un avantage évolutif se retourne aujourd'hui contre nous. Il faut simplement en être conscient. Donc, peut-être, avant que vous me posiez la question, parce que je suis sûr qu'elle va venir, certains vont me dire « Ah oui, mais moi, je regarde une part de gâteau et je prends déjà 3 kilos, sans même la manger. » Sommes-nous égaux ? Alors, ici, je vous parle d'un jeûne standard. Il faut savoir qu'il existe, là, je ne veux pas entrer dans le détail, qu'il existe ce qu'on appelle des polymorphismes, c'est-à-dire des variations dans la composition du gène qui font que la protéine produite varie dans son efficacité. Et en fonction de l'efficacité de la protéine qui est produite, bah vous êtes plus ou moins chanceux en termes de stockage. Et donc certains stockent plus facilement et d'autres moins facilement. Alors là, vous n'y pouvez rien. Alors évidemment, quand on en discute dans le contexte de l'obésité, c'est un désavantage. Le même gène MCT1, on sait qu'il contient plusieurs polymorphismes. Mais les gens, pour l'instant, ne s'y sont intéressés non pas dans un contexte d'obésité, mais dans un contexte sportif. Ah ah ! Donc, parce que MCT1 permet notamment les échanges de lactate, l'acide lactique, ça vous dit quelque chose ? Alors, chez les sportifs, l'acide lactique est quelque chose d'assez important. Et s'il s'accumule, ça réduit les performances. Donc, en fonction de l'efficacité de ce transporteur, vos performances ne seront pas les mêmes. Et vous avez maintenant, et les études sont publiées, j'en ai vu publiées par les Russes, j'en ai vu publiées par les Israéliens, qui ont commencé à catégoriser les athlètes en fonction des polymorphismes de leur gène MCT1, pour se rendre compte que les sprinters avaient plutôt un type de polymorphisme, alors que les sportifs d'endurance en avaient un autre. Donc vraisemblablement, l'existence dans la population de ces polymorphismes pour un gène précis, dans ce cas-ci un gène impliqué dans le stockage des graisses, peut avoir une importance. Je ne vais pas entrer dans le détail, on ne va pas vous faire une consultation de génétique, mais c'est juste pour comprendre qu'à travers un seul gène, là j'en ai parlé que d'un, parce qu'il en existe plusieurs, mais celui-ci en tout cas semble jouer un rôle, et vraisemblablement ces polymorphismes individuellement vont jouer un rôle. Clair pour tout le monde ? On continue. Alors, je voulais en venir sur ce qu'on appelle la stéatose hépatique ou la maladie du foie gras. Donc, j'y ai fait allusion, c'est une des conséquences de l'obésité, mais pas que, parce qu'on retrouve des stéatoses hépatiques, donc des accumulations de lipides au niveau hépatique, même chez des gens qui ne sont même pas en surpoids. Mais, dans le cas du surpoids et de l'obésité, c'est souvent quelque chose qui accompagne et donc qui devient très préoccupant. Alors, ici, c'est juste pour vous donner un exemple chez la souris. Donc, ce sont les mêmes souris dont je vous ai parlé. Donc, mes souris sauvages qui sont là, mes souris hétérozygotes pour MCT1 qui sont là. On a regardé leur foie. Et la souris sauvage a un foie qui est beaucoup plus large, beaucoup plus gros, et qui a une apparence plutôt rosâtre ou blanchâtre, parce que quand on regarde au niveau microscopique, on voit l'accumulation de toutes ces bulles blanches qui sont du gras qui s'est accumulé dans les cellules. Par contre, ma souris MCT1 hétérozygote, qui est protégée contre le développement de l'obésité, est aussi développée contre cette stéatose hépatique, donc cette maladie du foie gras. Donc, c'est une conséquence importante de l'obésité. Quelles sont les conséquences de cette accumulation de gras dans le foie? Alors, au départ, quand on est simplement au stade de stéatose hépatique, c'est totalement silencieux. C'est pour ça que c'est très pernicieux, puisque vous n'avez aucun symptôme qui vous dit « Ah, attention, vous êtes à risque de la maladie du foie gras ». Donc, tout se passe normalement. Si vous passez au stade suivant, c'est ce qu'on appelle la stéatohépatite, donc c'est une inflammation. Donc déjà, ça devient beaucoup plus sérieux. Et cette inflammation peut entraîner ce qu'on appelle de la fibrose, une partie du tissu hépatique qui meurt et donc qui va former une nécrose. Et là, vous êtes à l'étape irréversible. Et il y a deux options possibles. Soit vous développez un hépatocarcinome, donc un cancer du foie, soit vous avez une insuffisance hépatique. Et donc, il n'y a pas 25 options possibles, c'est la greffe. Alors là, on passe dans un domaine qui est lié au travail de l'unité dans lequel que je dirige actuellement. C'est le fait que, quand on regarde l'évolution des greffes de foie ces dernières années, on voit une augmentation de la demande qui est importante. Évidemment, si vous avez une augmentation du surpoids et de l'obésité, une augmentation de foie gras et donc de plus en plus d'insuffisance hépatique et de nécessité d'avoir des greffes. Là, vous avez l'évolution des greffes qui n'augmente pas à la même vitesse que la demande. Et malheureusement, vous avez des individus qui vont sortir de cette liste parce qu'ils décèdent faute d'avoir un greffon à disposition. Alors, la situation ne va pas s'améliorer. D'autant plus qu'un revers de la médaille, c'est que si vous avez une augmentation, évidemment, du nombre de stéatoses hépatiques due à l'augmentation d'obésité, d'un côté, vous avez plus de demandes pour la transplantation, mais de l'autre côté, vous avez moins de donneurs potentiels. Et les chirurgiens, maintenant, sont confrontés au problème. Lorsqu'ils ont un foie à disposition, souvent ils découvrent que ce foie a déjà un certain degré de stéatose hépatique. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ces foies sont suffisamment sains pour pouvoir les transplanter? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer peut-être de les améliorer avant de les transplanter ou au moment où on les transplante? Et là, une partie de la recherche qu'on fait dans notre unité, c'est de s'intéresser à cet aspect-là, qui est de savoir... Est-ce qu'on peut essayer, lorsqu'on a des foies que l'on va transplanter, d'améliorer leurs conditions et de s'assurer que la reprise de fonction soit la meilleure possible? Mais le problème risque de continuer à augmenter puisqu'on n'aura pas plus de donneurs sains à l'évidence. Bien, je referme la parenthèse recherche spécifique.
Est-ce qu'on peut utiliser un animal dans ces cas-là, par exemple?
C'est bien que vous abordiez la question. Je ne pensais pas forcément l'aborder, mais je réponds à votre question. La réponse est oui. Alors évidemment, attention, il y a évidemment un problème éthique qui se pose. Ce n'est pas acceptable pour tout le monde, mais il y a effectivement des essais qui se font. Aux États-Unis, ce qu'on appelle des xénogreffes ont déjà été effectués, notamment pour le rein, qui semble fonctionner. On avait un certain nombre de barrières à franchir. Évidemment, vous vous doutez bien que si vous prenez un organe d'une espèce que vous le transplantez dans un autre, vous avez le problème du rejet, qui est déjà, quand on est déjà dans la même espèce, c'est déjà un problème. Mais maintenant, avec les progrès de la génétique, on arrive à modifier génétiquement les animaux, on le fait couramment sur les souris et les rats, mais on peut le faire notamment maintenant chez le porc. Et le porc est un animal qui est beaucoup plus proche de l'homme du point de vue de son fonctionnement physiologique, du point de vue de la taille des organes. Et donc maintenant, on est aux portes de cette possibilité. Donc, les problèmes biologiques vont être résolus, c'est les questions éthiques qui se posent. Et là, je ne vais pas m'aventurer sur ce sentier. Mais c'est une question de société qui va se poser, parce que la biologie, maintenant, nous donnera la possibilité de le faire. Ce n'est peut-être pas la solution pour résoudre entièrement le problème, mais peut-être que ça pourrait être une possibilité. Bien, je sors de la parenthèse vraiment recherche et la partie clinique. Je reviens à notre question de base. On s'est dit au départ, est-ce que c'est la faute à la génétique ? La réponse est, la génétique joue certainement un rôle, mais en tout cas, ça ne nous apporte pas la réponse, surtout pas comment procéder pour enrayer le phénomène. Alors, revenons à la thématique principale de cette série de conférences, l'alimentation. Est-ce la faute à l'alimentation ? La malbouffe ? Alors, je vous donne mon avis éclairé. Très certainement, l'alimentation, les aliments transformés contribuent. À une certaine époque, on a directement accusé les graisses. On s'est dit, ah, le problème, trop de graisses dans l'alimentation. Quelle a été la solution proposée par les industriels ? Eh bien, on va produire des aliments sans gras ou sans cholestérol. La question est, est-ce que ceci a solutionné le problème de l'obésité ? Non. Je ne dis pas que manger trop de gras ne pose pas un problème. On doit bien sûr réduire, toutes les études semblent suggérer que on mange probablement en général trop gras, on doit essayer de réduire. Ce qui ne veut pas dire de ne pas manger du tout de gras. De toute façon, ce ne serait pas intéressant. Mais il faut tendre à réduire et simplement de manger des aliments que l'on dit sans gras ne va pas résoudre le problème. Alors, si ce n'est pas le gras, qu'est-ce que ça peut être ? Coupables suivants, les sucres, bien sûr. On en a plein, notamment dans les boissons gazeuses, dans les sodas. Et maintenant, on considère le sucre comme toxique. On doit éliminer le sucre. Alors, je ne dis pas que la consommation de sucre ne joue pas un rôle. On mange trop sucré. On doit tendre à réduire la quantité de sucre ingurgité. Mais quelle a été la réponse des industriels ? Eh bien, on va faire des aliments sans sucre. Le problème, c'est que c'est mauvais. Ça ne goûte pas bon. Donc, il faut trouver un moyen de rendre appétant une nourriture sans sucre. Et donc, on va développer les édulcorants. Alors, on en a plusieurs qui ont été développés. Ça marche bien, ça marche trop bien. Donc, on vous a enlevé la culpabilité, donc vous mangez des trucs zéro calories avec plein d'édulcorants. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce que ça va faire à long terme. Votre cerveau est quand même pas fou. Il se dit bien, je suis en train de me faire avoir. C'est sucré et pourtant, je ne vois pas une calorie passer. Donc, méfiance. Je dirais, ce n'est pas la solution. Il faut réduire notre consommation de sucre, c'est sûr, mais juste de remplacer du sucre par des édulcorants, je ne crois pas que là non plus, on va résoudre entièrement le problème. Bien. Alors, si on ne résout pas le problème de cette manière, si ce n'est pas les industriels qui peuvent nous proposer la solution, vers qui on se tourne ? Les industries pharmaceutiques, bien sûr. Alors, existe-t-il une pilule miracle ? On croyait pourtant l'avoir trouvée. Eh oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Rimonabant ? qui a été commercialisé par Sanofi sous le nom d'Acompia au début des années 2000. Alors, je vous explique. Il existe dans l'organisme ce qu'on appelle des endocannabinoïdes. Le terme cannabinoïde vous dit peut-être quelque chose. Donc, le principe actif du cannabis s'appelle le tétrahydrocannabinol, c'est cette molécule-là. Et en fait, il a ses effets parce que, naturellement, nous produisons ce qu'on appelle des endocannabinoïdes. Donc, nous avons nos propres cannabinoïdes, il y en a deux ici, l'anandamide par exemple, que l'organisme produit de manière naturelle. Et donc, il existe des systèmes dans lesquels ces endocannabinoïdes vont activer des voies particulières, notamment au niveau du système nerveux central. Et donc, pour pouvoir activer ces voies naturelles, il existe des récepteurs. Il y en a un en particulier qui s'appelle le CB1. Donc, on exprime au niveau du cerveau, mais aussi en périphérie, des récepteurs qu'on appelle CB1, sur lesquels vont agir nos endocannabinoïdes. Tout ça, c'est naturel. Et donc, à travers la recherche, on a identifié ce qu'on appelle un antagoniste, donc quelque chose qui prévient l'action des endocannabinoïdes sur leur récepteur CB1. Et ce qu'on a observé, d'abord chez la souris, c'est que lorsque l'on donne ce rimonabant, cet antagoniste CB1, on a une réduction de la prise alimentaire. Et en fait, on a une augmentation du sentiment de satiété. Autrement dit, on a un coupe-faim. Et en plus, ce rimonabant agit sur les mêmes récepteurs, mais en périphérie, notamment au niveau gastro-intestinal, et réduit l'absorption de nutriments. Et en plus, agit au niveau du tissu adipeux, où il mobilise les graisses. On a trouvé la pilule miracle. Génial. Sanofi croyait faire des milliards. Petit problème. Et je vais vous montrer le titre d'une revue en anglais qui a été publiée récemment. Requiem pour le rimonabant. Donc, on a décidé d'enterrer cette option. Pourquoi ? Malheureusement, le rimonabant a montré augmenter la dépression chez les gens qui le prennent. Et après quelques suicides, on s'est dit, là, il y a un problème. Oui, parce que les récepteurs CB1 n'ont pas qu'un rôle au niveau de la régulation de la prise alimentaire, mais agissent un peu partout au niveau du cerveau. On a juste oublié qu'on pouvait avoir des effets secondaires, et c'est un peu sérieux comme effet secondaire. Donc, tout ça a été abandonné, ce qui a beaucoup refroidi l'industrie pharmaceutique de se dire « Ah tiens, on va trouver la solution ». Mais bon, ce sont des gens persévérants, surtout quand il y a des milliards derrière. Donc, ils sont venus avec d'autres propositions. Alors, peut-être que vous en avez entendu parler. Alors, est-ce que les termes de Wegovy, Ozempic et Mounjaro vous disent quelque chose ? Bah, demandez à vos enfants et vos petits-enfants qui vont sur les réseaux sociaux. C'est la nouvelle chose à la mode. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, évidemment, derrière, il y a quand même des choses sérieuses qui sont développées. Alors, il faut savoir, déjà, que l'on a identifié une série d'hormones qu'on appelle les incrétines. Ce sont des substances qui sont libérées par les cellules des parois de l'intestin. Lorsque vous avez un bolus alimentaire qui arrive au niveau de l'intestin, ces cellules reconnaissent l'arrivée de cette nourriture et produisent une série d'hormones qu'on appelle les incrétines. Parmi ces incrétines, il y en a une qu'on appelle le GLP-1, glucagon-like peptide 1. Peu importe. Donc, c'est une hormone qui mime l'action d'une autre hormone qu'on appelle le glucagon. Donc, vous avez l'insuline et le glucagon au niveau du pancréas. Ce GLP-1 mime l'action du glucagon. Il va être libéré dans le sein et va notamment venir au niveau cérébral. Et va aller agir sur les mêmes mécanismes, les mécanismes similaires à la leptine, et donc va réduire la sensation de faim et donc augmenter la sensation de satiété, donc va agir comme un coupe-faim. Et en fait, il y a toute une série d'effets qui ont été décrits pour le GLP-1, parce que non seulement il agit au niveau cérébral, mais il a des effets au niveau du foie, il réduit la stéatose hépatique, il agit aussi au niveau du pancréas, il stimule la sécrétion d'insuline, et il diminue la résistance à l'insuline, qui est une des causes principales du diabète de type 2. Donc, ces nouvelles molécules qui sont ce qu'on appelle des agonistes GLP-1, donc qui miment l'action du GLP-1, semblent en tout cas se profiler comme des drogues miracles. Et en fait, certaines d'entre elles ont commencé à être approuvées pour être utilisées dans le cas du diabète de type 2 ou dans le cas d'obésité morbide. Donc dans les cas d'obésité extrême qui conduisent à des conséquences dramatiques, quand on n'a pas d'autre option, ceci peut être utile. Attention, avant de vous précipiter pour acheter l'une de ces molécules, parce qu'on peut les trouver sur Internet. Et les jeunes, maintenant, commencent à les utiliser quand ils veulent perdre 2 kilos. Ça devient... Et on ne connaît pas les conséquences à long terme. Donc, ce sont des molécules qui ont été développées pour être utilisées dans des circonstances où on a des maladies déclarées pour lesquelles on a besoin d'un traitement immédiat. Ce ne sont pas des substances à utiliser pour perdre 1 ou 2 kilos. Donc, ce n'est pas ce qui va résoudre le problème de l'obésité, c'est simplement une arme supplémentaire dans les cas extrêmes quand il faut pouvoir agir pour sauver la vie d'une personne. On fait bien la distinction. Évidemment, du point de vue recherche, c'est intéressant, ça nous a appris plein de choses sur le rôle des incrétines, sur les mécanismes qui régulent, encore une fois, le stockage des graisses, la résistance à l'insuline. Tout ceci a été développé suite à ces travaux. Mais il faut savoir comment les utiliser et pourquoi. Mais en tout cas, ce n'est pas une solution pour résoudre le problème de l'obésité. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire? Du point de vue de l'alimentation, en tout cas, visiblement, ce ne sera pas les industriels qui vont trouver la solution et probablement pas les industries pharmaceutiques. On va devoir prendre des mesures et à titre individuel, c'est difficile de demander à chacun il faut manger moins, il faut manger mieux. Voilà, on essaie de faire passer des messages. Il va falloir être un peu plus inventif. Il va falloir trouver des moyens plus globaux pour inciter les gens à manger mieux. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui ont été proposées? Avez-vous déjà entendu parler du Nutri-Score? Bien. OK, ce n'est pas la solution. Mais on a une première tentative au niveau, en tout cas sociétal, pour essayer au moins d'orienter les gens vers quelque chose d'un peu plus sain. Avec toutes les limites et tous les biais et tous les défauts que ce genre de système peut avoir. D'ailleurs, il y a pas mal d'industriels qui ne veulent pas jouer le jeu. On peut les comprendre parfois, mais au moins, ce sont des mesures publiques pour tenter au moins d'orienter les gens vers quelque chose de plus sain. Encore une fois, ça ne va pas résoudre le problème, mais déjà, c'est déjà un premier signe envoyé pour que les gens essaient au moins de mieux choisir les aliments. Maintenant, nous avons quand même, je pense, en France, une certaine chance, parce qu'il y a une certaine culture du bien manger et de vouloir cuisiner. Alors, je ne fais de publicité pour personne. J'ai essayé de prendre trois exemples, mais je trouve que ce genre d'initiative populaire a le mérite de vouloir inciter les gens déjà à cuisiner, à acheter des produits frais, plutôt, et je ne sais pas si vous êtes familier, si vous êtes déjà allé en Amérique du Nord, ce n'est pas du tout la même culture. Donc je pense que ici, ce genre de choses me paraît une bonne manière, en tout cas, de redonner envie, surtout aux jeunes générations, de vouloir cuisiner, de vouloir utiliser des produits frais. Évidemment, la transmission familiale est la meilleure. Donc, si vous voulez transmettre à vos enfants et vos petits-enfants l'envie de cuisiner et de manger sainement, c'est la meilleure manière. Mais ce genre d'initiative, même si ça vient de la télévision publique ou privée, je trouve que ça participe en tout cas à un effort d'essayer de bien manger. Je ne vais pas dire que c'est la raison pour laquelle, en France, la progression de l'obésité est moins importante que dans d'autres pays. Mais peut-être que ceci y participe. Donc, pas que je vous encourage à suivre les émissions de télé, mais je considère que si vous avez envie de cuisiner, c'est une manière un peu plus ludique de le faire, puisque bah, vous êtes avec d'autres, vous participez à quelque chose, plutôt que d'être tout seul dans votre cuisine et pas avoir envie de faire quelque chose. Mais je pense que ce genre de mesures me paraissent plus appropriées que d'espérer que l'industrie pharmaceutique vous développe une pilule miracle. Voilà, c'est mon petit message personnel. Bien, j'aimerais revenir à cette balance énergétique. Je me suis intéressé surtout au côté alimentation et apport, parce qu'évidemment, c'est la thématique, mais j'aimerais quand même m'intéresser au côté dépenses. Donc, évidemment, notre mode de vie, ces 30 dernières années, a beaucoup changé. Et nous à travers les métiers qui sont apparus, nous avons moins d'activités qui demandent à se dépenser physiquement. Le développement des écrans, ça me fait toujours drôle quand je le dis, mais je suis de la génération de la télévision. Nos enfants et nos petits-enfants, eux, téléphone portable, tablette, ordinateur, voilà. Donc, nous bougeons de moins en moins, nous sommes de plus en plus statiques, moins en moins d'occasions de se dépenser. Donc, il y a certains comportements qui se sont développés qui ne favorisent pas, en tout cas, la dépense. Je vais vous montrer quelques exemples illustratifs. Évidemment, ce sont des exagérations, mais je crois que ça illustre bien la problématique. Donc, effectivement, vous avez des gens qui regardent la télé en mangeant leurs chips et qui ont un chien et qui ont ce qu'on appelle un home trainer en anglais, donc pour pouvoir faire de la marche, mais qui n'ont pas envie de sortir leur chien, qui devraient les encourager à faire de l'activité physique et qui font faire de l'activité physique à leur chien pendant qu'eux peuvent rester tranquillement regarder la télé. Évidemment, ce genre de comportement est à proscrire, mais ça montre un petit peu que, effectivement, l'environnement ne nous encourage pas ou ne nous pousse pas à augmenter notre activité physique. Bien que l'acquisition d'un animal de compagnie comme un chien devrait vous amener à bouger un peu plus. Dans ce sens-là, oui, mais si vous le remplacez par lui faire faire le home trainer à votre place, bon. C'est pas gagné. Bon, sans aller jusque-là, il y a des activités relativement simples. On se dit, logiquement, ça devrait se faire naturellement. Eh bien, quelquefois, on voit des choses comme ça. Vous allez promener votre gamin, c'est la meilleure occasion pour prendre l'air et marcher un peu. Alors, quand on est obligé de prendre un véhicule électrique pour pousser la poussette, là, quand même, ça pose problème. Donc, il faut se poser les bonnes questions et ne pas céder à la facilité et à la tentation. Bien. Bon, vous allez me dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, alors, pour sensibiliser les gens? Alors, on a l'impression que c'est du vécu. Lorsque vous vous retrouvez dans un endroit où vous avez le choix entre un escalier et l'escalator, posons-nous la question, pourquoi choisissons-nous toujours l'escalator? Alors, on peut se dire, d'accord, vous avez exagéré, bien sûr, vous êtes allé dans un centre commercial, dans un endroit défavorisé, par exemple aux États-Unis, et puis vous avez pris la photo. Et ce sont des gens qui n'ont pas une éducation élevée, qui n'ont jamais été sensibilisés à l'activité physique et à ses bienfaits. Et c'est pour ça que voilà, vous me montrez cette photo, mais en fait, ce n'est pas du tout représentatif. La question est de savoir à quelle occasion cette photo a été prise. Le congrès de la Société américaine du sport en médecine. On ne peut pas dire que ce sont des gens qui ne sont pas informés, qui ne sont pas éduqués. En particulier à la problématique. Et pourtant, voilà ce qui se passe. Donc, il va falloir plus que de l'information, il va falloir plus que de l'éducation. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, comment inciter les gens à faire de l'activité physique? Je ne parle même pas de sport, mais de l'activité physique. Il y a quelquefois des aberrations. Vous voulez essayer de favoriser l'activité physique, mais je ne crois pas que l'installation d'escalator pour vous amener à la salle de fitness est forcément la bonne solution. Donc, encore une fois, FBI, fausse bonne idée. Alors, ce que je vous propose, c'est, je vais vous montrer une expérience qui a été tentée en Suède, dans une sortie de métro. Donc, c'est un petit film qui dure à peu près une minute et demie. Je vous le commenterai après, mais je pense que les images sont assez parlantes. Et l'idée, c'est, vous êtes dans une situation où les gens vont avoir le choix entre un escalier et un escalator. Maintenant, la question, c'est comment les inciter? Alors, regardez bien. Ça, c'est la situation au départ. Je ne vous traduis pas le suédois. Hein. C'est trop sombre ou vous arrivez à voir? Thank you. Bien, je pense que vous avez compris le message. Donc, il va falloir se montrer imaginatif. Donc, évidemment, c'est un petit exemple, mais l'idée, c'est qu'il va falloir trouver des moyens pour inciter les gens à faire de l'activité physique, à renoncer aux mauvaises habitudes. Et ça demande des aménagements, par exemple, urbains, probablement. Donc, c'est des décisions qui doivent être prises de manière collective, globale. C'est des politiques. Et ça, bah, nous sommes des citoyens, et donc nous devons faire remonter les messages à qui de droit, si on veut mettre en place ce genre de choses. Donc, j'ai touché que certains aspects, évidemment, de la problématique de l'obésité. Vous imaginez bien que c'est une problématique beaucoup plus importante. Donc, moi, j'ai touché surtout ce qui avait trait aux habitudes de vie, alimentation et activité physique. J'ai touché un petit peu à la génétique. Je n'ai pas parlé de l'épigénétique, parce que maintenant, on commence à mettre en évidence que vous pouvez induire par vos conditions de vie des modifications génétiques qui sont transmissibles. Ce ne sont pas des mutations, mais ce sont des modifications qui modulent l'expression de certains gènes et qui sont transmissibles de génération en génération. Et ça aussi, ça commence à avoir un impact. Donc, par exemple, on retrouve plus d'enfants obèses provenant de parents qui le sont aussi. Et vraisemblablement, ce n'est pas simplement par une exposition à l'environnement, mais aussi une transmission de modifications génétiques. Et puis, il y a plein d'autres aspects. Il y a des aspects culturels, bon, j'en ai touché un mot. Il y a les aspects économiques. Donc, on remarque effectivement le développement du surpoids et de l'obésité plus important dans les classes économiques les moins favorisées. Et puis, il y a les aspects sociaux. Donc, les gens qui ont beaucoup de contacts sociaux sont moins susceptibles de développer l'obésité. Donc, c'est une problématique globale qui ne peut être envisagée que du point de vue purement biologique. Et je pense qu'il faut en prendre conscience et œuvrer dans cette direction. Je m'arrêterai là. Et puis, s'il y a des questions, ben, j'essaierai d'y répondre. Merci beaucoup.
Déjà, moi, je vous remercie pour cette conférence et puis qui apporterait... Bon, j'avais de nombreuses réflexions, mais bon, je vais essayer de... quand vous parliez, par exemple, du Nutri-Score, bon, effectivement, moi, j'en utilise deux. Et quand je suis avec mes petits-enfants, ils sont rigolos parce qu'ils regardent quand on vient de faire les courses. Et puis, ils regardent, ou même quand on est en train de les faire... Et bah, ils sont maintenant de plus en plus soucieux par rapport à ça. Et l'autre chose, quand vous parliez peut-être de changer des habitudes, j'ai entendu donc il y a une dizaine de jours, c'était dans une émission à la radio sur Interception, c'était l'école dehors et des enseignantes qui étaient des Deux-Sèvres. Donc dans nos régions, dans la région parisienne, etc. Et déjà, c'était pour habituer les enfants, ne serait-ce qu'à sortir, à faire 15 minutes de marche pour leur apprendre à aller dehors. Voilà, enfin, entre autres. Et puis, une autre question, parce que moi, j'ai dans ma famille une personne qui s'est fait opérer, elle était obèse. Elle s'est fait opérer de l'estomac et c'est une pour elle, enfin pour cette personne, il me disait que c'est une très grosse erreur parce que finalement il mange très peu mais très souvent et donc ça n'a rien changé à sa problématique. Et puis par rapport à cette conférence, je me disais est-ce que ça ne pourrait pas être aussi introduit chez les plus jeunes pour sensibiliser. Mais quand je dis les plus jeunes, je veux dire des jeunes parents. Est-ce qu'en entreprise, on ne pourrait pas de temps en temps faire une conférence de ce type-là pour que les jeunes parents prennent également conscience de tout ce que vous venez de nous exprimer.
Voilà. Oui, effectivement, je pourrais le faire. Disons, là, je l'ai fait parce que j'ai été sollicité pour le faire dans ce contexte-là, même si moi, je ne suis pas considéré comme un spécialiste de l'obésité. Donc, je suis vraiment un chercheur qui s'intéresse du point de vue, disons, des mécanismes physiologiques, et donc je travaille notamment chez la souris. Mais personnellement, je trouvais que, en tant que scientifique, ça fait partie de notre responsabilité, en tout cas dans nos disciplines, dans nos domaines, d'alerter les gens à cette problématique. Alors, est-ce que je pourrais être appelé à le faire chez des jeunes, ou est-ce qu'il y a des éducateurs qui pourraient s'inspirer de ce que je fais pour délivrer le même message? Oui, moi, je serais prêt à le faire et à collaborer avec des gens pour avoir le même discours, disons. Je ne crois pas être le seul, mais à mon niveau, j'essaie de le faire.
Oui, merci beaucoup pour cette conférence. C'est très clair, très intéressant. Ma question, c'était par rapport aux les premières cartes qu'on a vues. Bon, il me semble qu'on voyait bien qu'en Inde, ben, y a pas d'obésité et puis pas de surpoids.
Pas qu'il n'y en a pas.
Non, mais
c'est par rapport au pourcentage de la population,
oui.
Ça reste faible.
Oui, alors quelles sont les explications?
Alors, disons, on n'a pas... Il y a des hypothèses qui sont avancées. C'est clair que les habitudes alimentaires... Par exemple, parce que le cas de l'Inde, vu qu'il y a un taux de pauvreté qui est relativement élevé, l'accès à une nourriture riche est plus difficile. Par contre, il y a des cas comme le Japon qui sont très, très intéressants, parce que le Japon fait partie des pays industrialisés. Et pourtant, on trouve des taux d'obésité qui sont encore relativement faibles. Parce que, je pense aussi, ils ont des habitudes culinaires qui font en sorte que, malgré le fait qu'ils ont été maintenant occupés par les Américains et qu'ils auraient pu avoir une certaine influence de la culture américaine, ont conservé leurs habitudes culturelles, leurs habitudes alimentaires, ce qui les a préservés. Donc, je pense que les raisons sont là. Par exemple, si vous prenez la Chine est un cas intéressant. Jusqu'à maintenant, on avait relativement peu d'obésité en Chine. Et maintenant, c'est un des endroits où l'obésité infantile augmente le plus rapidement. Parce que les nouvelles générations s'occidentalisent et commencent... Et ça participe vraisemblablement du processus. Donc... Je ne vais pas faire d'études épidémiologiques et sociologiques, mais effectivement, tous ces facteurs se combinent et expliquent probablement les exceptions ou les cas particuliers qui commencent à apparaître ici et là. Par exemple, je pense que si on prend les cas des îles du Pacifique, là, il y a un aspect génétique qui fait que, à partir du moment où ils ont été exposés à une culture occidentalisée, ils se sont mis à manger des choses... Et là, la génétique plus ça, c'est l'explosion, quoi. Donc, chaque cas est particulier et il y a probablement plusieurs facteurs.
Merci pour la conférence.
Ah oui.
Je voulais vous poser une question. Est-ce que le stress ou un gros choc émotionnel peut changer le métabolisme? J'ai un exemple. Ma fille a eu un accident de voiture. Enfin, elle était à pied, mais la voiture était alcoolisée, donc il l'a envoyée en l'air. Donc, pendant 2 ans, elle a pris du poids, 25 kilos. Et il a fallu une thérapie pour qu'elle puisse reprendre son poids normal, mais elle mangeait normalement. Donc, la question, c'est le stress, choc émotionnel, peut changer beaucoup de choses?
Oui, bien sûr. Donc, je n'ai pas abordé ce volet dans le condition de vie. Effectivement, disons, le stress, et notamment le stress au travail, a augmenté. Et donc, c'est une autre des composantes qui s'ajoute aux autres. Alors, dans le cas d'un traumatisme beaucoup plus sérieux et soudain, c'est une composante, effectivement, qui peut avoir des effets importants. On sait que ça modifie le métabolisme de manière importante. Et donc, ça peut contribuer, bien sûr.
Oui, j'ai une question aussi. Est-ce que l'impact des bactéries aussi, parce que vous n'avez pas parlé, par exemple,
tout
des probiotiques, du fait qu'on fait l'alimentation de plus en plus stérile, choses comme ça.
Tout à fait.
Et puis un deuxième raccourci, enfin une autre question, je raccourcis. Est-ce que du fait de ces mutations génétiques qui arrivent de plus en plus, comme vous dites, est-ce que ce n'est pas dû aussi peut-être à un effet qu'on n'a pas encore mesuré, de la pollution, choses comme ça? Une molécule qui perturberait, choses comme ça.
Effectivement. vous abordez deux questions.
Voilà, oui.
L'aspect du microbiote, oui.
Exactement.
C'est une problématique qui s'est développée récemment. Et très clairement, le microbiote contribue. Il y a des expériences absolument... Et maintenant, il y a même des traitements qui sont proposés. Mais en tout cas, pour les expériences où on a transposé le microbiote de souris obèses à des souris qui ne le sont pas, et on a vu se développer l'obésité, alors qu'on n'a pas changé le type d'alimentation de la souris qui reçoit le microbiote de la souris obèse. Donc il y a très clairement une composante du microbiote. Il faut bien se dire que le microbiote contribue à l'absorption des nutriments. Et donc là aussi, il y a une influence importante. Donc ça, c'est clair, ça a été reconnu. Votre deuxième point, c'était... Ah, la pollution, oui. Donc l'environnement. On sait qu'il existe ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens qui se répandent et qui s'accumulent. Et donc, là aussi, on suspecte un certain nombre de molécules de pouvoir avoir un impact et donc de pouvoir contribuer dans certaines régions ou polluées à cet essor. Mais encore une fois, je vous rends sensible à cet argument. Il ne faut pas simplement se focaliser sur une seule cause. Je pense qu'on ne réglera pas le problème simplement en accusant soit le microbiote, soit les perturbateurs endocriniens, soit l'alimentation. C'est un problème global. Les polluants en font partie, indéniablement, il faut le reconnaître. Le microbiote aussi. Et donc, il faut essayer de prendre les mesures nécessaires dans ces différents domaines pour proposer des solutions globales. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Ce sont deux éléments. D'ailleurs, il m'a fallu 3 heures de présentation pour passer en revue tout. Mais effectivement, vous avez raison.
Oui, bonjour. Vous disiez tout à l'heure qu'il allait falloir être imaginatif pour essayer d'enrayer le phénomène. Mais il y a donc ce qu'on mange, mais il y a aussi la façon dont on mange. Parce que paradoxalement, on n'a jamais vu autant de food trucks, de manger sur le pouce où on ne se rend même pas compte qu'on mange, en fait. Et on a l'impression qu'on commence avant, on s'arrêtait pour un déjeuner. On avait tant de temps pour déjeuner. Et en fait, on avait l'impression d'avoir mangé. Tandis que là, je pense que notamment toute la jeune génération est habituée à ça. Et est-ce que ça ne va pas à l'encontre, justement, de ce qu'on pourrait espérer?
Tout à fait juste. Il faut bien se rendre compte que pour que la sensation de satiété survienne, il faut un certain temps. Et donc, si vous mangez trop rapidement, en fait, vous allez dépasser les quantités nécessaires par rapport à votre sentiment de satiété. Et donc, de retrouver du temps pour manger lentement, faire en sorte que vous ressentiez ce sentiment de satiété et que vous puissiez vous arrêter avant d'avoir consommé trop, ça participe, en fait, aux mesures que l'on devrait être capable de prendre son temps, alors que maintenant, de plus en plus, c'est l'excuse, on n'a plus le temps. Mais je suis tout à fait d'accord, ça fait partie aussi. Ça nous paraît tellement évident, je dirais, à nous, notre génération, alors que pour d'autres, ils sont dans un autre mode de fonctionnement. Et ben, peut-être qu'il faudrait essayer de les sensibiliser à cet aspect-là aussi.
Oui, un petit point aussi sur le fructose et le glucose. Je me pose la question suivante, c'est que bon, je prends des fruits tous les matins. Et je me dis, est-ce que je dois compter ça comme du glucose? Et auquel cas, ça pourrait avoir une incidence sur l'hémoglobine glyquée, par exemple, le cas d'une prise de sang. Ça, c'est une première question. Mais une deuxième question aussi, c'est le manger en conscience. Je suis vraiment très troublé par ce que disent certaines personnes. Dis-moi, voilà, si tu prends un repas, pose-toi sur ce repas et interroge-toi, fais une introspection sur ton propre ressenti. As-tu encore faim? Et en fait, dans cette boulimie d'aller vite, on en oublie la conscience, en fait, de manger en toute quiétude et aussi en toute conscience.
Voilà. Alors, je commence par votre question sur le fructose, qui est assez intéressante parce que parmi les usual suspects, à un moment donné, le fructose a émergé. Parce qu'on s'est aperçu que l'utilisation de fructose dans l'alimentation est apparue dans les années 70-80. Et c'est à partir de là qu'on a vu décoller, notamment aux États-Unis, l'obésité. En fait, pourquoi le fructose est apparu? Logique d'industriel. Le sucre coûte cher. Donc le sucre, c'est le sucrose, donc, qui contient une molécule de glucose, une molécule de fructose. et donc à produire coûte plus cher que le sirop de maïs. Le sirop de maïs est composé uniquement de glucose et industriellement peut être, mais c'est pas très, ça n'a pas un goût très sucré. Industriellement, on peut en convertir une partie en fructose qui, lui, a un pouvoir sucrant beaucoup plus élevé. Et donc, l'industrie a trouvé un moyen de sucrer ses aliments, notamment les sodas, à moindre coût, avec un pouvoir sucrant plus important. Le problème, c'est que le fructose n'a pas les mêmes effets que le sucrose ou le glucose, et notamment favorise l'accumulation de lipides au niveau du foie. Donc, maladie du foie gras. Donc, évidemment, on s'en aperçut beaucoup plus tard. Mais une fois que les industriels avaient déjà commencé à vendre leurs produits, difficile de retourner en arrière. Donc oui, vraisemblablement, le fructose pourrait en tout cas participer au développement en tout cas, de certaines pathologies lorsqu'il est consommé en grande quantité. Donc il y a des études qui commencent à suggérer que ça pourrait être le cas. Donc ça, effectivement... Mais encore une fois, ce n'est qu'un des éléments. Vous parliez de la conscience de manger. Oui, effectivement, je pense que ça peut participer. Je pense que c'est un peu dans le même cadre. Si vous mangez trop vite, si vous ne prenez pas conscience, bah, c'est difficile de savoir quand vous arrêtez. Et donc, je pense que ça peut être un élément important. Je suis étonné que vous ne me posiez pas la question à propos du jeûne. Sinon, moi, je ne réponds pas. Hein. Donc, effectivement, il y a en tout cas un courant de pensée qui semble suggérer que le jeûne, plus ou moins long, plus ou moins intermittent, plus ou moins important, pourrait avoir des effets bénéfiques. Ouh. Les études scientifiques semblent suggérer que, effectivement, je ne parle pas de l'obésité, mais sur, en tout cas, le diabète de type 2, par exemple, et sur la longévité, certaines formes de jeûne intermittent pourraient avoir des effets bénéfiques. Avant de tous vous précipiter et de jeûner, d'abord, consultez un médecin. Mais effectivement, en tout cas, il semble que de retrouver, surtout si des gens avaient l'habitude de manger énormément, de faire un jeûne intermittent de temps à autre, et quand je dis intermittent, c'est par exemple de passer une journée où on n'a pas trois repas, ça puisse permettre à l'organisme de retrouver un rythme normal et ça aurait des effets potentiellement bénéfiques. Mais encore une fois, ça reste une mesure limitée. C'est ce que je peux en dire maintenant. Oui.
Merci beaucoup pour votre conférence. Au niveau du changement des comportements, moi j'ai eu une expérience cet été. Des jeunes m'ont montré ce que l'intelligence artificielle était capable de leur dire, y compris pour faire à manger, pour des recettes. C'est-à-dire que voilà ce que j'ai dans mon frigo, ce que j'ai chez moi, en épicerie. Qu'est-ce que tu me proposes, qu'il soit sain, qu'il soit sans graisse, sans... Et j'ai été bluffée par ça. Est-ce que ce n'est pas l'avenir aussi d'alléger la charge mentale par rapport à ça? Parce que c'est difficile de faire des régimes, de compter les calories, etc. Et est-ce que ça ne sera pas une puissante aide au changement de comportement?
Alors, pour moi, ça peut être un moyen si vous n'avez pas des industriels derrière qui... Voilà. Donc, si... Parce que le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que elle doit se nourrir d'informations. Et en fonction de qui donne les informations et de quelle manière, vous pouvez lui faire dire à peu près ce que vous voulez. Donc, si c'est fait avec des critères qui permettent de s'assurer que tout ce qui est proposé effectivement correspond à une amélioration de l'alimentation, je veux bien. Mais j'aimerais bien voir effectivement une validation avant de proposer ce genre de choses. Mais si ça peut être une aide pour suggérer des choses parce qu'on n'a pas envie de réfléchir, pourquoi pas? Mais je serai très vigilant quand même.
Y a-t-il une dernière question qui soit pas peut-être tout à fait en haut?
Exercice.
Parce qu'il n'y a pas encore d'escalator, alors ni de piano.
Il y a le monsieur.
Ah, monsieur. Ah là, c'est parfait.
Merci beaucoup. Je voulais une impression, c'est que j'ai toujours été dubitatif sur la notion de satiété. Je suis un boomer. J'ai été élevé à 3 repas par jour, avec entrée, plat, dessert, fromage éventuellement. Et comme je suis bien élevé, je finis mes assiettes. Et du pain. Qu'en pensez-vous?
Personnellement, je n'éliminerai jamais la notion de plaisir de l'alimentation. Donc, il faut savoir se faire plaisir. Mais il faut quand même avoir une certaine notion de raisonnabilité et donc d'être capable, disons, d'adapter les apports avec les dépenses. Donc, si ça correspond à votre niveau d'activité physique et que vous avez ce sentiment de satiété, bah, de faim, il faut savoir se faire plaisir. Mais de temps à autre, il faut peut-être se dire, bah, cette fois-ci, pas de dessert, parce que bon, quand même, j'ai un peu exagéré ces derniers temps et il faut que je me remette un peu à la marche. Il faut savoir se gérer, je dirais. Il faut savoir se connaître aussi.
Maintenant que vous nous avez quand même donné quelques solutions, même si évidemment elles ne sont pas toutes à la portée de l'individu, puisqu'on a bien compris que les pouvoirs publics avaient en main plusieurs questions et plusieurs solutions à apporter, mais il nous reste vraiment à vous remercier très sincèrement, Monsieur Pellerin, d'avoir ouvert cette nouvelle année.